Vous êtes sur RTL.
Participer à l'Open d'Australie.
Et nous aurons deux sujets à partir de 12h40 sur lesquels nous pourrons disserter. Les files d'attente qui s'allongent devant les labos et les pharmacies. On se demandera s'il est toujours utile de tester. Et puis le pass vaccinal au Sénat.
Notre question du jour sur RTL.fr. Faut-il justement arrêter de tester? Vous dites oui à 66%. La météo du jour, c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine.
Et on a toujours 5 départements d'alerte rouge.
Ben oui, parce qu'il pleut toujours autant près des Pyrénées. Je regarde les images radar, les pluies s'accumulent là sur les Pyrénées. Alors pluie en plaine, mais neige en montagne à partir de 2000 mètres. D'où cette vigilance qui va être maintenue au moins jusqu'à la nuit prochaine, parce que ça ne cessera pas d'ici là. Donc ça veut dire que les pluies vont continuer à s'accumuler. Donc que les cours d'eau vont continuer à monter, notamment la Garonne ou encore l'Adour, d'où cette vigilance, donc prudence encore cet après-midi, avec toujours un fort risque d'avalanche en montagne. Pour les autres régions, dans l'ouest, on aura encore un ciel nuageux et pluvieux, mais en revanche, dans l'est, petit à petit, ça va commencer à s'améliorer avec le retour d'un temps sec et quelques éclaircies, notamment des Alpes à la Méditerranée. Le tout avec des températures qui baissent dans les régions de l'est, 3 à 5 degrés seulement du côté de l'Alsace, 6 à 9 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 10 à 14 dans le sud.
Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc, direction Nice. Une cinquantaine de manifestants ont accueilli tout à l'heure Emmanuel Macron, papier toilette à la main. Vous aurez bien sûr compris la référence où j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Des manifestants peu nombreux et tenus à distance. Pas de quoi donc entacher, en tout cas pour l'instant, ce déplacement ultra-politique du président, toujours pas officiellement candidat, Vincent Derosier.
Bah oui, et disons-le sans détour, ce déplacement d'Emmanuel Macron, c'est une réponse aux attaques quotidiennes de la droite et de l'extrême droite sur son bilan en matière de sécurité. Quand Éric Ciotti l'accuse d'avoir laissé la société sans sauvager, eh bien le président répond que la drogue est un fléau, qu'il ne lâchera pas les dealers et surtout qu'il y a un droit à la vie tranquille pour tous les Français, notamment quand il est interpellé ce matin par une présidente de comité de quartier.
Je suis confrontée toute la journée avec des gens qui se plaignent, qui ont peur, les vols, les incivilités, les trafics de drogue devant les écoles, la jour. Cette banalisation de la délinquance, ça devient, c'est insupportable.
Et il y a une banalisation de la violence, il y a un sujet éducatif, culturel, sur lequel on doit se battre. Ça ne réglera pas le problème à court terme.
Et la réponse à court terme, Amandine, c'est du bleu sur le terrain, comme le dit le président ce matin. Emmanuel Macron a d'abord vanté son bilan, les 10 000 postes créés sur le quinquennat. Il vient d'annoncer aussi qu'il comptait doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici 2030, soit 3 000 policiers de plus dans les rues. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, qu'Emmanuel Macron peaufine tout doucement son programme de campagne en matière de sécurité.
Vincent Derosier en direct de Nice pour RTL.
Sur le front sanitaire à présent et à 3 heures d'une journée de grève dans l'éducation, Jean-Michel Blanquer annonce un nouvel assouplissement.
Les parents d'enfants cas contact pourront attendre le soir la sortie de l'école pour venir les chercher. Une fausse bonne idée, répondent les enseignants. Guylaine David est porte-parole du SNUIPP-FSU.
On a eu la semaine dernière des cas d'élèves dont on n'arrivait pas à joindre les parents ou les parents ne pouvaient pas quitter leur emploi tout de suite. Mais là, on va avoir des abus forcément en disant on viendra que ce soir. Là, ce qu'on craint, c'est que la contamination va continuer de se faire. C'est-à-dire que soit on retire les enfants au plus vite pour pouvoir les tester, pour savoir au plus vite s'ils sont positifs ou négatifs, soit on continue de les laisser ensemble dans une classe mal ventilée à 28 ou 29. Donc forcément, il faut prendre toutes les précautions et aller tester au plus vite.
Un propos recueilli pour RTL par Marie Guerrier. L'idée pour le ministre, c'est de soulager un peu les parents qui, depuis la rentrée, il y a une semaine, s'arrachent les cheveux avec tous ces tests illustration à Nancy. Avec vous, Samuel Goldschmidt.
De prime abord, c'était plutôt calme ce matin devant le petit chalet façon marché de Noël, installé à 5 mètres de la porte d'entrée.
Non, ça allait, il n'y a pas trop de monde. Ça se fait vite quand même.
Mais très vite, la pharmacie est assaillie par des clients de différents âges, plusieurs étudiants, quelques jeunes adultes. Mais l'écrasante majorité de la file d'attente est faite de parents comme Florence, avec leurs enfants comme Lucille.
J'avais super mal au nez.
On est passé par 3 laboratoires. Et en voyant la file d'attente sur le trottoir, on a continué notre chemin. C'est pour ça qu'on s'est rabattu sur la pharmacie.
Vous êtes dans quel cas?
Cas contact à l'école.
C'est comment à gérer?
C'est compliqué.
Dans le chalet des étudiants en pharmacie venus prêter main forte, ils sont remarquablement efficaces.
Là, on est autour de peut-être déjà 120, 130 tests déjà sur la matinée, depuis 8h30. C'est très conséquent et c'est de plus en plus et de plus en plus de positifs. On est approvisionné, on a de l'avance toujours sur au moins une ou deux semaines en termes de tests, masques, etc. Donc il n'y a pas de souci.
Vous allez tenir ?
Oui, on l'a fait jusque-là. Pourquoi pas encore un moment.
Il faut dire que c'est une journée plutôt reposante. De garde, hier, la pharmacie a réalisé 350 tests.
Ah non, c'est le reportage de Samuel Goldschmidt pour RTL. Une exaspération qui commence aussi à monter chez les artistes. La preuve avec Gad Elmaleh, invité ce matin d'RTL. Il a été contraint d'annuler une partie de sa tournée. Eh bien, il n'hésite désormais pas a plus à interpeller Jean Castex.
Jean Castex a dit il y a un mois qu'on n'avait plus le droit de jouer dans des salles de plus de 2000 personnes et il a donné rendez-vous à la population française le 5 janvier pour faire un point. Jean Castex ne s'est pas pointé au rendez-vous. Il ne s'est pas excusé. Quand on plante une personne, soit on avertit, soit on s'excuse. Quand on en plante plus de 60 millions, on envoie un petit mot quand même.
Gad Elmaleh sur RTL ce matin, il était l'invité de l'équipe de Laissez-vous tenter.
Côté sportif, la suite du feuilleton Djokovic et avantage au numéro 1 mondial.
Ouais, puisque la justice australienne a ordonné sa libération ce matin, pas sûr pour autant qu'il dispute l'Open d'Australie, Christophe Mallet.
Oui, le ministre de l'immigration a le droit de veto sur chaque visa émis dans le pays, droit qu'il peut exercer à tout moment à l'encontre de Novak Djokovic. La justice a donné raison aux Serbes aujourd'hui à cause d'un vice de procédure à son arrivée à l'aéroport. Mais nous sommes encore très loin de voir le numéro 1 mondial à l'Open d'Australie. Des sources dans la communauté serbe de Melbourne m'ont dit que pour le moment, des discussions sont en cours entre les avocats de Novak Djokovic et l'État australien. Si son visa est révoqué, le numéro 1 mondial pourrait être également interdit de territoire pour 3 ans. Et il semble que les clés de la négociation soient là. S'il décidait de partir de son plein gré, le gouvernement pourrait lever cette clause, autorisant le Serbe à revenir l'année prochaine. Pour rappel, Novak Djokovic était positif au Covid le 16 décembre, alors que la date limite des tests pour la dérogation médicale du tournoi était au 10 décembre. Vous le voyez, il y a encore un grand nombre de questions sans réponse dans ce dossier. Le match continue également dans la rue. Quelques échauffourées ont eu lieu ce soir entre les supporters serbes et la police.
Et Christophe Mallet, le correspondant d'RTL en Australie. Dans l'actualité également, le sud-ouest toujours en alerte rouge. 5 départements, des Landes à l'Ariège, en passant par les Pyrénées-Atlantiques où l'on vous retrouve. Philippe de Maria, bonjour.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Vous êtes à Oloron-Sainte-Marie où l'on surveille le niveau de l'eau comme le lait sur le feu.
Oui, exactement. Le vieux pont de pierre situé à l'entrée de la ville sert de repère aux habitants. Une seule arche posée au-dessus du gave, c'est ainsi que l'on nomme les rivières ici en Béarn. Les flots sont absolument furieux. Le niveau monte progressivement.
C'est impressionnant parce que comme l'être humain est en train de détruire la planète, elle se venge à sa façon.
Oui, oui, c'est impressionnant.
Parce que quand on voit passer des arbres comme ça, entiers, qui ont été déracinés, je ne sais pas où, ce pauvre pont, il en a vu du monde.
Le maire d'Oloron est venu se rendre compte par lui-même, Bernard Uturi.
Tenez, regardez ce qui passe là. Un énorme tronc d'arbre qui passe, oui. Alors il évite les piles du pont, mais il peut aussi taper dessus et les déstabiliser. Ce matin, le gave ne charriait pas de bouts de bois, de cailloux, comme il le fait maintenant. On entend que des troncs tapent sur les piles des ponts, et ça nous inquiète un petit peu. Les prévisions qui sont celles de la préfecture aujourd'hui, qui pourraient faire monter le niveau du gave à 5,15 m, c'est du rarement vu quand même. C'est du registre de la crue historique de 2018.
La circulation des trains est interrompue en ce moment entre Pau, Oloron et Bedouce, et le pic de la crue est attendu cet après-midi.
Philippe de Maria, Oloron, Sainte-Marie pour RTL.
Nous ouvrons à présent la page étranger avec l'horreur à New York.
Au moins 19 personnes, dont 9 enfants, sont mortes dans l'incendie de leur immeuble, l'un des pires de ces dernières années. C'est un chauffage d'appoint qui est à l'origine du drame. Lionel Gendron, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, alors ce matin, il y a toujours quelques lumières allumées dans cet immeuble qui est vide, bien sûr, pour des questions de sécurité. Hier, beaucoup de survivants rencontrés ont confirmé qu'il n'y avait pas d'escalier de secours. Alors c'est vrai que tous les immeubles n'en ont pas, mais il y a des normes et il paraît anormal que la fumée issue d'un seul appartement se soit propagée aussi vite, même si les gens ont ouvert leurs portes et c'est ce qui a permis de propager cette fumée. Il y a eu des alarmes incendies car des habitants ont raconté que dans un premier temps, ils ne se sont pas inquiétés car il y a souvent de fausses alertes. Hier, le nouveau maire de New York, Eric Adams, est venu sur place et s'est ému de la situation.
Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et le commissaire nous tiendra informés quand les informations arriveront. La source de l'incendie semble provenir d'un radiateur. Les marshals sont ici pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Et ce que nous pouvons faire de mieux pour améliorer le sort des résidents.
Alors c'est vrai qu'à New York, toutes les semaines, il y a des incendies mortels, mais pas aussi dramatiques que celui-ci.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL à New York, et puis toujours à l'étranger, début aujourd'hui de discussions capitales pour l'avenir de l'Ukraine, pour parler entre Américains et Russes. Les premiers échanges ont eu lieu ce matin à Genève, Émilie Beaujard.
Oui, la réunion a commencé peu avant 9h dans le bâtiment de la représentation américaine à Genève. Dans la salle, seulement une poignée de personnes. À la tête de la délégation russe, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. La délégation américaine, elle, est emmenée par la secrétaire d'État adjointe, Wendy Sherman. Cette dernière a déjà fait savoir qu'elle allait exposer les positions américaines, puis écouter celles des Russes, mais qu'elle ne discuterait pas de la sécurité européenne sans les Européens. Les discussions d'aujourd'hui devraient donc surtout être des exposés. Chacun avance ses pions et ses arguments. Dans les grandes lignes, les Russes veulent un retrait de l'OTAN des zones proches de ses frontières. Les États-Unis réclament le retrait des troupes russes autour de l'Ukraine. Pour arriver à cela, il va falloir faire des concessions, arriver, accepter des contreparties. C'est tout l'enjeu de cette semaine cruciale de négociations.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
Faut-il continuer à tester ? Ça va être notre premier sujet dans un instant.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Je pense qu'il y a trop de tests, surtout les testeurs tout du moins n'arrivent pas à suivre la cadence. La contagion va beaucoup plus vite que les tests. Peut-être qu'il faut faire le choix de vivre avec ce virus.
Comme beaucoup d'entre vous, ce père de famille a fait la queue ce week-end pour faire tester sa fille, cas contact pour la troisième fois. Lui, comme d'autres, s'interroge. Fait-on trop de tests, 2 millions de tests faits lundi dernier, faut-il arrêter ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Lionel Baron.
Bonjour.
Vous êtes le président du syndicat national les biologistes médicaux. Je le disais, 2 millions de tests lundi dernier, 1,5 million réalisés chaque jour en moyenne la semaine dernière. Est-ce que c'est trop et surtout trop pour tester correctement ?
Alors oui, c'est trop. C'est trop, c'est-à-dire qu'on a des tests qui ne sont pas utiles et qu'on ne devrait pas faire. Et d'autres tests qui seraient utiles pour casser les chaînes de transmission et qu'on ne fait pas. Donc là, il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique ? Il faut limiter les tests qui ne servent à rien. Par exemple, le test qu'on fait à J5 chez un cas positif pour savoir si la personne est contagieuse ou non ne sert à rien. Nos tests ne sont pas des tests permettant de savoir si vous êtes contagieux ou non. Vous pouvez d'ailleurs garder un test positif pendant un mois sans être contagieux. Donc, ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut pas faire ce test-là. Et là, tout d'un coup, revirement de situation, le gouvernement le rentre dans son schéma de dépistage. Ça nous ferait déjà gagner du temps, ça désemboliserait les laboratoires. Deuxième point, les enfants.
Oui, tous ces tests à tester J0, les enfants. J2, J4...
Eh bien, pourquoi pas si on peut le faire en autotest, c'est simple, c'est rapide, c'est pas cher. Par contre, l'autotest, c'est médiocre en termes de performance.
Donc, c'est quoi médiocre?
Médiocre, on en loupe 2 sur 3 pour les cas asymptomatiques,
c'est
à mon avis au bas mot.
Effectivement. Vous m'inquiétez, même parce que moi je fais souvent des autotests.
Ah ben là je peux vous donner les chiffres précis. Pour les tests antigéniques, donc mieux que les autotests parce que c'est en nasopharyngé, ces tests-là c'est 44% de sensibilité pour les cas asymptomatiques. Donc on parle bien des cas contacts qui n'ont pas de symptômes. Ça veut dire que plus d'un sur deux infecté sera négatif en antigénique.
Donc ça
les
sert
autotests,
à rien,
c'est moins bon.
Pour freiner cette épidémie, pour mieux tracer, etc., ça sert à rien.
Eh bien, si, paradoxalement, ça sert. Ça sert parce que quand c'est positif, par contre, eh bien là, il faut isoler, il faut contrôler, isoler.
Mais on en loupe plein.
Ce qui fait que, on en loupe plein. Donc, quelle est notre proposition ? Nous, on ne fait pas de PCR à J0. On peut faire des autotests régulièrement parce que justement, ça peut se refaire dans le temps. S'ils sont positifs, on isole tout de suite, on contrôle et on isole tout de suite. Par contre, si c'est négatif à J4, on s'arrête pas là. On fait une PCR à J5. une PCR même salivaire pour les enfants à J5 ou J6. Et là, pour le coup, on n'aura plus de trous béants dans la raquette parce que avec le nouveau protocole du gouvernement, à J4, si l'autotest est négatif, on s'arrête là. Donc il y a plein de gens qui seront négatifs à J4 alors qu'en fait, ils seront en pleine contagion.
Alors convenons que c'est compliqué pour les parents qui nous écoutent. On va prendre des exemples simples. Hier à 16h30, je connais une famille qui a reçu un mail de son école. L'avertissant qu'il y avait un cas de Covid dans la classe, en l'occurrence de cette petite fille qui n'avait que 3 ans. Cette petite fille, de fait, devient cas contact hier à 16h30. Et elle doit avoir un test avant de revenir à l'école ce matin. Donc la famille en question, un dimanche, quitte son appartement dans Paris, va chercher une pharmacie et fait 1h30 de file d'attente pour un test d'une petite fille de 3 ans.
Et encore, elle habite Paris, si je peux me permettre. Parce qu'autrement,
c'est plus compliqué de trouver une pharmacie. Donc est-ce que ce test pour cette petite fille de 3 ans, qui est exigé pour qu'elle rentre à l'école ce matin, est utile ?
Eh bien, c'est justement ce test-là que moi, je souhaiterais supprimer, ou en tout cas faire en nasal et pas en nasopharyngé. Parce que nous, nos laboratoires sont devenus des musées des horreurs, parce que faire des tests antigéniques en nasopharyngé plusieurs fois par semaine chez des petits bouts de choux, ce n'est pas raisonnable. On pourrait très bien faire des autotests, et comme je le dis, par contre, faire une PCR salivaire, qui a une bonne performance, mais à J5. Et là, on referme
là, on
le trou béant dans la raquette
hier,
sans
embêter. Par exemple, le cas que je décris, il est à J0.
Et ben voilà, ben justement, ce J0-là, nous, on a proposé de le supprimer, d'accord. De faire un autotest à la place, J0, J1, J2, éventuellement, pour le refaire dans le temps. Et par contre, après, à la fin de cette période-là, on fait une PCR, comme ce qui était le cas avant, pour refermer le risque et ne pas avoir ce trou béant dans la raquette. Ce qui fait qu'on ferait moins de PCR, parce que aussi, dans les écoles, les dépistages massifs en PCR, ça n'a plus de sens à l'heure actuelle où le virus circule partout. On enlève des PCR qui ne servent à rien. Et par contre, on les met quand ça sert, c'est-à-dire entre J5 et J7.
Sauf Lionel Baron, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, pour un retour en classe, par exemple pour le cas qu'évoquait à l'instant Pascal, c'est PCR d'abord, puis deux autotests. En fait, il faudrait faire l'inverse.
C'est ça.
On est d'accord.
PCR d'abord ou antigénique, et deux autotests. Ben oui, il faudrait faire l'inverse. Mmh. Et d'ailleurs, l'antigénique, bien souvent les parents préfèrent l'antigénique parce que le résultat est tout de suite, on n'attend pas 24 heures. Donc on gagne un jour d'école et on n'a pas besoin de prendre un congé à la maison. Mmh. Donc ils choisissent l'antigénique. Mais l'antigénique, jusqu'à hier, c'était obligatoirement en nasopharyngé. Mmh. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est inacceptable socialement. Mais heureusement, ils ont fait un revirement, le ministère, puisqu'on a, on leur a expliqué la difficulté. Et hier soir, à 21h, le ministère a décidé que les antigéniques chez les enfants pouvaient être faits en nasal.
Et je retiens également que vous dites que c'est dangereux pour les bouts de choux, pour reprendre votre terme, de leur mettre dans le nez cette sorte de coton-tige et que ça peut les abîmer. C'est quand même pas rien ce que vous nous dites.
Alors dangereux, ça je sais pas, j'ai pas dit dangereux, j'ai dit inacceptable. Mmh. C'est inacceptable parce que c'est traumatisant au bout d'un moment de faire ça plusieurs fois par semaine. Il y en a qui le vivent assez bien, mais il y en a d'autres qui pleurent, qui doivent être tenus, ça peut développer peut-être des phobies scolaires, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas raisonnable de mettre un écouvillon nasopharyngé chez un enfant de 5 ans trois fois par semaine.
Toute dernière question, Lionel Baron, on voit ces files d'attente devant les pharmacies, devant les labos. Par endroit, c'est impossible de se faire faire une prise de sang, rien à voir avec le Covid. Mais ça aussi, ça vous inquiète sur le suivi de certains malades ?
Eh bien, évidemment. Et c'est pour ça que je propose des pistes qui permettraient de limiter les PCR qui servent à rien, mais de faire des PCR qui servent. Parce que on ne peut pas accepter, il n'y a pas que le Covid dans la vie, on ne peut pas accepter que des personnes ne puissent pas avoir leur prise de sang, faute de place. C'est comme les chirurgies qui sont déprogrammées. Il faut qu'on puisse continuer à tester pour alerter, protéger les personnes et éviter qu'il y ait une explosion de cas à 2 millions par jour, même si on est à des niveaux stratosphériques déjà à l'heure actuelle. Donc, il faut aplatir cette courbe de contamination pour éviter d'emboliser les hôpitaux derrière, de saturer les hôpitaux, parce que sinon, il va y avoir des déprogrammations. Mais oui, on n'empêchera pas le virus de circuler. C'est pour ça que des PCR, on est limité dans nos capacités. Et encore, on a des capacités exceptionnelles par rapport à d'autres pays. On a équipé tout ce qu'on pouvait. Donc, on a des capacités exceptionnelles, mais on ne peut pas faire 60 millions de PCR par jour. Donc, il faut les utiliser à bon escient. Et nous, avec le nouveau schéma du gouvernement, on ne comprend plus rien. Vous comprenez plus rien. Les Français ne comprennent plus rien. C'est extrêmement dommage qu'on n'ait pas pu avoir une discussion avant avec eux pour avoir quelque chose de clair. Parce que maintenant, entre vaccinés, non vaccinés, foyers, hors foyers, selon l'âge, symptômes, pas
enfin,
de symptômes.
C'est presque rassurant de savoir que pour vous aussi, c'est compliqué.
Alors, nous, nos standards téléphoniques ont explosé suite à ces directives et entre nous, on ne savait pas toujours expliquer aux patients ce qu'il fallait faire dans la situation.
Le protocole dans les écoles, c'est une usine à gaz également. Merci, monsieur Barrand. Je rappelle que vous êtes président du syndicat national Les Biologistes Médicaux. C'était très clair, très précis et très pédagogique et vous n'avez pas la langue de bois, ce qui est agréable lorsqu'on vous écoute. Il est 12h50, notre deuxième débat dans une seconde. C'est le pass vaccinal qui arrive au Sénat.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Alors attendez, il y en a qui arrivent et qui vont lever la main. Donc on attend que tout le monde s'installe.
21, 22, 23, 24.
Bon, posez-vous, parce que c'est pas possible.
On suspend.
Après des débats pour le moins agités la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le pass vaccinal débarque aujourd'hui au Sénat, en commission d'abord, puis dans l'hémicycle. Ça, ce sera demain. Bonjour Loïc Hervé.
Bonjour.
Vous êtes sénateur centriste de Haute-Savoie et vous êtes contre ce projet de loi. Vous avez d'ailleurs déposé un amendement qui propose non seulement de renoncer au pass vaccinal, qui est donc l'objet de ce projet de loi, mais aussi de supprimer le pass sanitaire. Pourquoi ?
Ben vous voyez, on est dans la cinquième vague, la vague d'Omicron. Et chaque jour, plusieurs centaines de millions de Français sont contaminés par ce virus, par ce variant, ce qui devrait démontrer qu'en fait, toutes les mesures privatives de liberté sont inutiles, puisque le pass sanitaire n'a pas empêché cette nouvelle vague. Et qu'est-ce qu'on fait ? On durcit encore le droit, et donc c'est une difficulté pour nous qui est très importante. Et donc, moi, je veux qu'on aille sur un système à l'espagnol qui permettra la suppression du pass sanitaire, et évidemment qu'on exclut la possibilité du pass vaccinal.
Sauf que le pass sanitaire a eu également une conséquence d'aller vers plus de vaccinés. Beaucoup de personnes, depuis le mois de juillet, se sont vaccinées à cause du pass sanitaire, et donc en cela, il a été efficace.
C'est vrai, mais dans la loi, il n'a pas été conçu pour ça. Et Olivier Véran continue tel un mantra de rappeler qu'il souhaite des lieux exempts de contagiosité. Il l'a dit à l'Assemblée nationale, il l'a dit chez vos confrères de Brut. Donc, il raconte quelque chose qui est un roman, qui est faux. Et la vaccination, évidemment, a été très encouragée par le pass sanitaire, mais ça n'était pas sa fonction. D'ailleurs, le Conseil d'État l'avait clairement écarté dans les finalités.
Donc, pas de pass vaccinal, pas de pass sanitaire. Mais alors, quelles restrictions, selon vous, faut-il garder aujourd'hui en France ?
Un maximum de gestes barrières, des tests quand c'est utile, mais l'Espagne ou le Portugal n'ont pas de pass sanitaire et ils ont des taux de vaccination supérieurs aux nôtres.
Alors en Espagne, dans certaines régions, il y a un pass sanitaire, notamment pour aller au restaurant par exemple.
Oui, mais il est beaucoup moins généralisé que chez nous.
Donc en fait, on ne sanctionne pas les non-vaccinés, on ne fait pas en sorte de les pousser vers la vaccination, c'est...
Mais on parle de quelques pourcents de la population.
Oui, sauf que ce sont eux qui aujourd'hui engorgent les hôpitaux.
Engorgent essentiellement les services de réanimation, vous avez raison. Mais c'est un choix de liberté après. Le gouvernement n'a pas souhaité aller vers la vaccination obligatoire. Moi non plus hein, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Mais on a un système qui est un système énorme, qui fait peser la contrainte sur tout le monde en réalité.
J'imagine que vous avez suivi de près les débats à l'Assemblée la semaine dernière. Oui. Parmi les temps forts qu'on a retenus, il y a eu le témoignage de Raphaël Gérard, ce député qui a été malade du Covid et qui a pris la parole expliquant qu'il fallait arrêter la gesticulation politique, racontant lui son quotidien aujourd'hui avec cet appareil qu'il porte en bandoulière. Ça ne vous fait pas changer d'avis, des choses comme ça ?
C'est-à-dire, vous pensez que je suis un anti-vax ?
Pas du tout.
Je suis vacciné moi-même.
Pas du tout. Je trouve que pour...
J'ai eu le Covid la semaine dernière. J'ai été bloqué une semaine, comme tous les Français qui sont testés positifs. Je rigole pas avec ça. Je dis simplement qu'on ne peut pas, en permanence, n'avoir comme seule mesure que la restriction de des libertés publiques. C'est tout.
Mais après,
on peut considérer les Français comme des responsables. Et je suis sensible à ce que dit notre collègue, mais ça ne légitime en rien et le passe vaccinal et le passe sanitaire et toutes ces mesures.
Monsieur Hervé, moi j'entends ce que vous dites et pour tout dire, même on a parfois relayé ce que vous dites. Mais ce qui me frappe depuis deux ans, c'est que ce discours a été parfois porté. Il a été porté par Monsieur Comte-Sponville. Il a été porté par Bernard-Henri Lévy. Il a été porté par des intellectuels, hein, disons-le. Il n'a jamais pris dans l'opinion. Jamais il n'a pris. Comme si les Français avaient peur et comme s'ils réclamaient davantage encore de restrictions, en tout cas de mesures de protection. Il l'interprète comme ça. Quel est votre sentiment ?
Je vous fais la confession, Pascal Praud, que le combat des libertés publiques, c'est un combat souvent minoritaire et qu'il est très très difficile d'affirmer ces choses-là, et c'est vrai d'être pris dans l'opinion publique. Quand au mois d'avril, j'expliquais que le pass sanitaire, une fois voté, serait généralisé, tout le monde se gossait, même au banc du gouvernement, on disait mais tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on veut faire. Moins de deux mois plus tard, la chose était faite. Donc si vous voulez, parfois les complotistes d'aujourd'hui ont raison le lendemain. C'est ça qui est très paradoxal dans cette affaire. Et donc, moi, le combat des libertés publiques, je le mènerai jusqu'au bout. Parce que je pense que les conséquences du fait d'habituer les Français au contrôle social sont très graves. Très graves, et ce sont des conséquences de long terme, pas des conséquences immédiates. À la rigueur, le pass sanitaire, c'est pas la pire des choses. C'est le fait qu'on s'habitue, qu'on s'accoutume qui est grave.
En fait, c'est un combat pour la liberté et non pas contre le sanitaire.
Non mais attendez, moi je suis un élu responsable, je suis un père de famille, j'ai été maire pendant 10 ans, je fais très attention à ça, au sanitaire. Mais je dis qu'on ne peut pas dans notre pays prendre l'habitude de mettre les libertés publiques durablement sous cloche, c'est surtout quand ces restrictions n'ont aucun intérêt sur un plan sanitaire. Je le redis, le pass sanitaire n'a pas d'effet sanitaire. Oui, il a encouragé la vaccination, mais il ne limite pas la contagion, c'est pas vrai. Il y a des millions de Français qui ont été contaminés la semaine dernière. Regardez l'état de l'éducation nationale ces jours-ci. Elle ne fonctionne plus parce qu'il y a des gens qui sont contaminés, il y a des cas contacts et c'est très compliqué. Donc, prenons des mesures adaptées, de court terme, mais de grâce, ne mettons pas le pays sous cloche en termes de liberté publique. Le gouvernement n'a toujours pas répondu à la CNIL en termes d'utilité du pass sanitaire, alors que la CNIL lui a demandé 4 fois.
Merci beaucoup Loïc Hervé, en tout cas d'avoir été avec nous dans RTL Midi. Et donc, début des discussions tout à l'heure en commission au Sénat.
Et début des discussions également pour les auditeurs, la parole dans quelques secondes sur tous les sujets qui ont fait la une de cette édition du 12h30. Il est 12h59, à tout de suite.
RTL Midi.